mes pires défauts, c'est que je remets tout au lendemain. Je fais toujours tout à la dernière minute. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Pour ceux qui aiment les termes scientifiques, ça s'appelle la procrastination, un peu comme ça. Et vendredi dernier, là, c'était l'assemblée générale de la petite maison d'édition dont je m'occupe. Et donc, deux semaines avant, j'étais devant mon miroir, en regardant droit dans les yeux. Je me suis dit, Joël, cette fois-ci, tu prépares à l'avance, tu prépares les documents à l'avance, tu les envoies bien une semaine avant. T'es un battant, tu vas le faire. Tu vas arrêter de te pourrir la vie. Et vous savez quoi? Il s'est passé un truc extraordinaire. Non, c'est pas vrai. Cinq minutes avant le début de la réunion, j'étais encore en train d'imprimer les documents. Difficile de changer. On a tous chez nous un défaut qui reste. Plusieurs défauts qui restent. On essaye de corriger, atténuer, mais ils sont là. Manu, hier, qui a fait un excellent message lors du mariage de Muriel et Roger, nous a rappelé l'acceptation qu'il fallait qu'il y ait dans un couple. Et c'est un des conseils qu'on m'a donné moi aussi, quand je suis allé vers le mariage, c'est dis-toi bien que tu ne réussiras jamais à changer ta femme. Elle gardera toujours les mêmes défauts. Et il faut l'accepter. Non, 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 pour qu'il y ait un changement profond, il faut un miracle, un coup de pouce divin, ou un coup de pied divin, comme dirait mon ami Frère Charles. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de lire un texte dans le livre des actes que l'on fait, que l'on suit en ce moment. Un texte qui parle d'un changement en profondeur. C'est un texte un peu long, mais on va prendre 5 minutes pour le lire ensemble. On peut l'afficher. Vers midi, Pierre, le disciple de Jésus, monte sur la terrasse de la maison pour prier. Je ne reviendrai pas dessus, mais les miracles commencent toujours par la prière. Il commence à avoir faim et il veut manger. C'est un homme. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les quatre coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux. Des animaux à quatre pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre répond, « Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. » Il entend la voix une deuxième fois et lui dit, « Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. » Cela se produisit trois fois, et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande, « Que veut dire ce que j'ai vu ?» Je saute un peu plus loin dans le passage. Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu. Mais l'Esprit Saint lui dit, « Il y a ici trois hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descend et dit aux hommes, « Vous cherchez quelqu'un ? C'est moi. Pourquoi êtes-vous venu ?» Il lui répond, « Nous venons de la part de Corneille. » Un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu, et tous les juifs disent du bien de lui. Un ange de Dieu est venu lui donner ce conseil, fais venir Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. Alors Pierre fait rentrer les trois hommes dans la maison, il les reçoit pour la nuit. Le jour suivant, Pierre part tout de suite avec les trois hommes. Quelques croyants de la ville de Joppé l'accompagnent. Le lendemain, il arrive à Césarée. Corneille l'attend déjà, il a rassemblé les gens de sa famille et ses meilleurs amis. Au moment où Pierre arrive, Corneille vient à sa rencontre. Il se jette à ses pieds pour le saluer avec grand respect. Et Pierre le relève en lui disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Et tout en parlant avec Corneille, il entre dans la maison. Là, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit, « Vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être ami avec un autre, d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. » Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répond, il y a trois jours à cette heure-ci, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison. Tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est trouvé devant moi et il m'a dit, Corneille, Dieu a entendu.
accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Tout a commencé après que Jean a lancé cet appel. Faites-vous baptiser. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit-Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix, mais le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort et lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alors Pierre dit « Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans nous. » Pierre rencontre Corneille. Qui est Pierre? Qui est-il? Pierre était une personne du peuple, un homme simple, pêcheur de profession. Et le texte ainsi bien, il loge chez un tanneur, quelqu'un qui travaille le cuivre, qui était une profession de basse condition à l'époque. Pierre avait été transformé par Jésus, mais dans son esprit, nationaliste encore, il n'annonçait la bonne nouvelle qu'aux Juifs. Il se tournait, lui, vers les gens de petite condition, de son peuple. Il avait été élevé dans l'idée que quelqu'un, un jour, viendrait libérer le peuple juif des Romains. Et on, si vous connaissez un peu l'histoire de Pierre, c'était un des premiers à saisir une arme et à couper l'oreille de quelqu'un en pensant que Jésus allait être ce libérateur. Alors que représente Césarée, la ville où il se rend, et Corneille pour lui? Césarée, à l'époque, c'était la ville des Romains. Elle était en bord de mer, ça servait de ville garnison. C'était le bastion des Romains, le bastion de l'occupant. Une ville riche, dans un pays pauvre. Et que représentait Corneille? Corneille était un officier romain. L'élite de l'occupant. Pour Pierre, un païen, un non-juif. Pour Pierre, aller chez Corneille, aller à Césarée, aller chez Corneille, c'était trahir sa race, trahir tout ce qu'il était. Et risquer de se mettre en porte-à-faux par rapport à ses amis. Il faut bien comprendre ce que ça représente. On s'en rend plus grand moment. Pour lui, c'était trahir sa race. Et tu insistes. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué que le nombre 3 dans la vie de Pierre, c'est très important. Il a renié 3 fois Jésus. Jésus est revenu vers lui en lui demandant 3 fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et là, Dieu lui répète 3 fois la même vision. Alors, on voit, il commence à se poser des questions là. Ça doit venir de Dieu, c'est quelque chose d'important. 3 hommes viennent le voir. Alors, encore 3. J'y vais sans hésiter. Et Corneille lui dit que lui, il a prié 3 jours auparavant à 3 heures de l'après-midi. Pierre est fini d'être convaincu. Quelque chose vient de Dieu. Je dois comprendre quelque chose. Je dois changer. Et si vous me permettez, on va continuer dans cette tradition et on va dégager du texte 3 vérités qui amènent un changement profond en nous et qui parlent à notre Église. La première de ces vérités, on la trouve au verset 28. Vous savez, un juif, dit Pierre à Corneille à l'Assemblée, n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Ça, mes amis, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Dans la Bible, ce qu'il y avait marqué, c'était que les juifs ne devaient pas consommer certains aliments du porc. Entre autres,
extension, les chefs religieux ont commencé à dire, bah, si il ne faut pas manger de porc, bah, il vaut mieux pas manger avec un étranger. Parce que sinon, sa nourriture va contaminer la mienne, etc. Et si je ne dois pas manger avec un étranger, eh bien, il ne faut pas que je rentre chez lui. Et au fur et à mesure, se sont construites des règles qui ont fait qu'au lieu d'être des témoins de Dieu, ces juifs-là sont devenus des gens qui se coupaient du reste du monde. Et Jésus avait déjà reproché ça aux religieux à l'époque, si vous vous souvenez. Il était rentré dans un repas, et au malheur, ses disciples ne s'étaient pas lavé les mains au repas. Les trois garçons ne sont pas là ce matin, donc je ne peux pas faire passer un message particulier. Mais... Et les chefs religieux, pour lesquels c'était une règle de purification avant les repas, sont venus reprocher à Jésus, et Jésus leur dit, « Esaïe a bien profité à votre sujet, hypocrite. » Car il est écrit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, et vous vous attachez à la tradition des hommes. Il leur disait, vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et là, il donne un exemple. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et encore celui qui insulte père et mère, qu'il soit puni de mort. Et vous vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire offrande sacrée. Autrement dit, papa, maman, je vais vous assurer la retraite, mais l'argent que vous devez, c'est passé en offrande au temple, donc je ne vous dois rien. Donc c'est-à-dire offrande sacrée, vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voici ce qui le rend impur. En tant que chrétien, souvent, on s'invente des règles de morale qui nous séparent des gens. Et qui ne sont pas de l'évangile. Si ça tenait qu'à moi, et si Jésus ne parlait pas à mon cœur, je ne parlerais pas aux fumeurs, je ne parlerais pas à ceux qui ont des tatouages, je ne parlerais pas à ceux qui ne font pas de sport, à ceux qui laissent des téléphones portables à leurs jeunes enfants, etc., etc., etc. Et je suis sûr que vous pouvez rajouter ces règles que vous fixez et qui vous séparent des gens, qui vous coupent des gens, mais qui ne sont pas de l'évangile. Et même des non-chrétiens inventent des règles qui nous séparent les uns des autres. Moi, le débat qui m'amuse beaucoup, mais c'est pas si amusant que ça, c'est le débat entre les véganes et les bouchers, en ce moment. Et j'entendais un boucher, là, un fois, qui disait, mais ça va mal finir, on va revenir, ça va finir dans la violence, cette histoire. Entre les intégristes véganes et les mangeurs de viande. Les bouchers, ceux qui en travaillent. La vérité, c'est qu'en tant que chrétien, on doit être aussi à l'aise avec un vegan qu'en botte de caoutchouc avec un éleveur de charolais. On doit pouvoir entendre, parler aux uns et aux autres et être des ouvriers de paix pour trouver des compromis dans notre société. Nous voulons ici que cette église soit ouverte, accessible aux personnes de l'extérieur, quel que soit son bord. Il ne doit pas y avoir de règles qui soient une excuse pour ne pas être des témoins auprès des gens de l'extérieur. Rien ne doit faire obstacle au premier des commandements que nous a transmis Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième, excusez-moi, le premier c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais rien ne doit faire obstacle à ce commandement-là. Donc, c'est le premier pas. Du changement profond. Abandonnons ces règles superflues, ces préjugés sur les gens qui nous empêchent de leur parler tout simplement. Deuxième vérité, contenue dans le verset suivant. Maintenant, dit Pierre, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance,
confiance et fait ce qui est juste. Cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays.
Vous savez, moi, en tant que jeune, je prenais souvent le RER le soir à l'époque où j'allais encore sur Paris le soir pour faire la fête. Et des fois, ça m'arrivait de rentrer seul en RER. Deux fois, je me suis fait agresser par des bandes de jeunes d'origine africaine. Et pourtant, jamais mon cœur n'est devenu raciste.
Pourquoi ?
Et c'est une déclaration d'amour que je fais à cette église.
C'est parce que j'ai grandi dans cette église.
J'ai grandi avec des Solanges, Bemba. J'ai vu des mamans africaines élever leurs enfants d'une manière remarquable.
Multiculturelle, multisociale. Et Pierre a compris ce jour-là. Dieu accueille tout le monde. C'est vrai dans tous les pays. Attention donc, dans notre Église, à conserver notre force. Pas de clan, pas de clichés. Pas de généralité sur les blancs, les noirs, les antillais, ce que vous voulez.
Non. Dieu ne regarde pas ce genre de cliché. Il regarde si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste.
Et ça, notre comportement en Église comme ça nous influencera pour notre comportement à l'extérieur. En permanence dans les médias,
on travaille à nous séparer les uns des autres. On va attirer la haine. Et s'il fallait relever une haine qu'on nous pousse en ce moment à avoir, c'est la haine du musulman.
Et poussé par l'Église, par exemple, dès que ce sentiment vient en moi, j'essaye de penser à deux choses. Je me souviens de Malika. Malika qui a été la nourrice de mon fils Thomas quand il était petit.
Quand on nous a annoncé que ça allait être elle la nourrice, notre fils, notre premier réflexe, c'est de dire une femme musulmane qui ne parle pas bien français. Et maintenant, je me souviens avec joie de ses fils, dont un s'appelait Fatah, qui veut dire le combat pour l'islam, Fatah à l'islam, qui gardait son petit garçon tout blond sur ses genoux et qui regardait le foot ensemble. Malika qui m'accueillait avec des crêpes. Et quand j'arrivais, je venais le chercher et qui garde encore une petite photo de mon garçon chez elle. Malika qui fait ses prières musulmanes tous les jours.
Vous êtes vraiment parole du bon samaritain que j'ai vécu une fois alors que je me rendais pour ma société au Crédit Agricole du Carrefour de Champs-sur-Marne.
C'était un jour où il avait neigé, la neige était tassée, je m'étais garé,
voiture en pente.
J'ai discuté avec mon conseiller financier, je ne lui prends pas ce qu'il propose. Et je retourne à ma voiture, je démarre et les roues qui tournent dans le vide. Impossible de démarrer. Enfin, impossible de repartir. La voiture patinée. Je vois mon conseiller financier qui passe pour sortir fumer une cigarette. Il me regarde, il me sourit en disant bah, pas de chance. C'est vrai, il dit qu'un autre monsieur passe bien habillé, costard cravate aussi, me regarde avec un petit sourire narquois. Il est bien embêté, lui. Je pourrais vraiment pas partir.
Et toi, quoi, un vieux monsieur musulman en habit traditionnel musulman arrive et me dit essaie de pousser un peu la voiture pour m'habiller, ça marche pas trop. Il me dit bah, attends, je vais t'apprendre un truc. Il me dit prends le tapis et t'as tes pieds. Et le sous-tarou.
Je mets cela en haut. Et hop, la voiture est partie facilement.
Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Ne faisons pas de généralité. Il y a des gens qui respectent un peu partout. Et c'était le cas de Corneille. Ce Romain. Et on arrive à la troisième vérité, qui est dans ce verset. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant toute personne qui croit en Jésus. marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à Céphas devant tout le monde, toi juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs. Pourquoi donc? Nous sommes des juifs de naissance. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ.
Jour de changer. Pierre était retombé dans les mêmes défauts quelque part. Après, l'apôtre Paul a dû le rappeler. L'essentiel, c'est qu'on n'est pas rendu juste parce qu'on obéit à la loi de Moïse. Corneille n'allait pas être rendu juste parce qu'il donnait des dons aux pauvres, parce qu'il se souciait des Juifs, mais seulement s'il croyait en Jésus-Christ.
Il y a un avertissement dans ce verset que j'ai lu. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Celui qui te jugera à la fin, qui me jugera à la fin, ce n'est pas ton patron sur tes performances au travail. Ce n'est pas ton coach sportif sur le nombre de kilomètres que tu as réussi à courir. Ce n'est pas ton conjoint. Non, c'est Jésus-Christ qui va te juger à la fin,
qui va me juger. Celui qui a dit « aime ton prochain comme toi-même », celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour ceux qui le haïssent.
La barre, elle est différente de ce qu'on apprend dans la société. La barre, elle est très haute. Mais il y a une bonne nouvelle dans ce verset. C'est que celui qui place sa confiance en Jésus, qui le reconnaît comme son juge, Jésus devient son sauveur. Il lui fait grâce. Grâce de ses erreurs, grâce de ses échecs, grâce de ses défauts, grâce de ses péchés.
Et Jésus le conserve dans son cœur pour l'éternité. Et il sera avec lui pour l'éternité. Nous voulons changer profondément. Je vous invite en conclusion à faire, si vous voulez, cette prière avec moi dans votre cœur.
Seigneur Jésus, nous voulons placer l'amour du prochain avant nos petites règles de conduite, nos préjugés, nos façons de vivre, nos cultures. Nous voulons entretenir l'espérance pour toutes les nations, Père. Nous savons qu'aucune n'est inaccessible pour ta grâce. Change-nous, change nos cœurs à l'égard de celui qui n'est pas comme nous. Seigneur Jésus, aide-moi à mieux te connaître et te faire confiance, toi qui es mon seul juge et sauveur. Amen.